Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est l'histoire de la paysannerie française, non pas celle des grandes et riches exploitations que l'on peut trouver dans la Beauce, par exemple, non pas une histoire didactique et sans âme, mais celle qui raconte comment le monde paysan a construit, modelé la France, l'a fait vivre et a imprimé en elle durant une longue période des valeurs que l'on souhaiterait voir perdurer. Ce monde paysan s'incarne en un personnage réel, Jean Dussenty, dont la vie digne et laborieuse s'achève quand apparaît une société nouvelle, modelée par les nouvelles technologies, la mondialisation, la primauté du profit. Ce récit s'intitule « Jean, le dernier paysan face aux Pyrénées ». Il est édité par les éditions Lafond de Mena et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Jean-Paul Abadie. Jean-Paul Abadie, bonjour.
Bonjour Monique et bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
Alors, évidemment, les Pyrénées, vous y connaissez particulièrement bien. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux articles les concernant, mais aussi deux ouvrages, Les Hautes Pyrénées de mes grands-parents et Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents. Et c'est votre ancrage, les Pyrénées, c'est votre point de repère.
Oui, c'est effectivement la substantifique moelle de ma vie, c'est le port d'attache.
Ouais, j'ai l'impression que vous connaissez toutes les vallées. Alors, une culture aussi dont vous allez nous expliquer l'importance, culture que l'on trouve d'emblée dans votre ouvrage. Alors, parce qu'on voit les mots en patois, alors est-ce qu'on dit patois ? Oui.
Oui, on dira pas toi. On parce dira... que intellectuellement, maintenant, on parle de l'occitan.
Oui, mais et l'occitan est très varié quand même, suivant
exactement.
Les régions. Le patois aussi, vous me direz.
Et le patois aussi. Oui. Le patois est très varié, même dans les villages, même d'un bout du village à l'autre.
Même d'une vallée à l'autre, oui.
Surtout d'une vallée à l'autre.
Oui, ah oui, absolument. Et les accents également.
Voilà. On ne le parle pas avec le même accent et il y a beaucoup de mots qui diffèrent.
Oui. Voilà. Alors, des mots en patois, donc, beaucoup traduits systématiquement, et que ce soit des outils, et je salue d'ailleurs la précision, votre précision et votre science dans ce domaine déjà, parce que vraiment, il y a quantité d'outils. Et par exemple, bon, moi, je ne savais pas que la chartigade, c'était la faucille, et que, par exemple, quand on parle de bailler, eh bien, le bailler, c'est l'enfant, le jeune qui travaille voilà. Pour un fermier.
Oui, ça va être l'employé.
Bailette. Oui, là, voilà.
Donc, nous avons un nom tous dans notre région occitane.
Voilà, et même les jurons. Bon, voilà. Alors, et puis on apprend, par exemple, qu'un journal, ça correspond à 8 heures.
À 25 heures, ça dépend des endroits.
25, ah bon ?
Oui, 25 heures, ça correspondait à la journée de labour du terrain. Ce que l'on pouvait labourer en une journée, avec une paire de vaches, normalement. Et la superficie varie un peu suivant les villages et suivant donc la consistance du terrain. Il peut être de 25 ou 28 heures, suivant que le terrain est plus ou moins dur, suivant qu'il est plus ou moins en coteau ou en plaine d'alluvion. Voilà, c'est pour
d'accord.
ça que... Mais en fait, ça reste autour de 25, 28,
d'accord.
entre
alors
25 et 30
heures. D'accord, alors pourquoi ai-je marqué 8
C'est pas grave.
Alors, dites-moi, ce langage, ce vocabulaire, a-t-il disparu ?
Hélas, il est mort-né, enfin, il est en train de mourir petit à petit, malgré les efforts que font les calandrettes pour réapprendre le patois ou l'occitan. Il meurt et il est mort avec la disparition de la génération qui me précède.
Oui.
On a longtemps lutté contre ce patois, notamment dans les écoles publiques, où les instituteurs se sont... affronter à cette langue vernaculaire qui existait depuis
Il était interdit
de parler patois.
Oui.
Et ça a été l'une des causes de la mort du patois.
Hein. Oui.
Faut pas...
Et en même temps, dans un souci d'unité.
Oui, d'unicité de la France.
Oui, c'est ça.
Qui avait de multiples patois. Oui. Bon, nous, c'est le gascon, si on peut mettre tout ça derrière le gascon.
Oui.
D'autres avaient des patois différents.
Oui. Oui,
effectivement,
oui.
Comme vous disiez, Monique, notre Occitan, il s'étend de...
Oui.
Pas du Pays Basque, puisque les Basques, le Basque est vraiment à part, du Béarn jusqu'à
la Provence.
Jusqu'à l'Italie.
Ah oui. Je connais quelqu'un qui habitait dans les Hautes-Alpes, oui. À Serres, oui, entre oui. Gap et Sisteron, oui. Qui comprenait les gens de la Barousse.
Voilà, on comprend, on arrive à comprendre.
Oui, voilà.
C'est pas le même, les mêmes mots, mais on arrive à comprendre généralement oui. ce que l'on raconte.
Alors il y a l'école, évidemment, puis la télévision. Hein, la télévision, elle a uniformisé tout.
Et puis la disparition des gens qui avaient appris à parler patois dans la famille avant de parler français. Moi, j'ai un souvenir d'école. Pourtant, je ne suis pas un dinosaure, mais bon...
Non, mais, je confirme.
Mais est arrivé dans ma classe un gamin qui était de mon âge et qui ne parlait que patois. Et j'ai une anecdote humoristique un peu. Et il avait du mal à comprendre ce que lui disait l'institutrice.
Oui.
Et il faisait comme s'il était chez lui. Il rentrait, il sortait de la classe d'école. Et je me souviens, c'est une réminiscence. À un moment donné, il revient, il était sorti, il revient dans la classe. Et l'institutrice lui demande « Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais ?»« Eh, qu'est-ce qu'il y en a de picha ?» Je suis allé faire mon petit pipi, tranquillement, vous voyez.
Mais peut-être qu'il était élevé par des babacous, non ?
Non,
pas du tout.
C'était une famille très, très normale.
Ah, d'accord.
Mais il est arrivé ne sachant pas un mot de français.
Ah oui.
Voilà.
Vous faites appel dans les deux précédents ouvrages à vos grands-parents, c'est-à-dire au passé. Alors, qu'est-ce qui vous intéressait, Léa ? Dites-moi.
Eh bien, j'ai été élevé chez mes grands-parents. En fait, lorsque mes parents ont eu mon frère, qui est arrivé un an après moi, ils m'ont placé chez mes grands-parents et j'ai été élevé, effectivement, par mes grands-parents, qui étaient des paysans, et qui sont... Mon grand-père n'a jamais conduit un véhicule à moteur, un tracteur, ni une voiture, ni d'ailleurs une mobylette. Il est resté, lui aussi, dans ce monde de paysan,
oui.
Totalement paysan, comme Jean, le héros de mon ouvrage. Oui. Jean, lui également, n'a jamais conduit un tracteur.
Il n'a pas voulu de tracteur.
Voilà, non, il n'est pas passé au stade de la mécanisation. Le seul appareil, c'était sa mobylette. Jean, voilà. C'était sa seule concession au modernisme.
Oui.
Effectivement, donc moi, j'ai été élevé chez mes grands-parents.
Alors,
dans la maison Ourette, voilà, Campistos.
Voilà. Alors, un ami, Hugo Frey,
oui.
C'est bien un ami,
oui.
A écrit une préface à votre livre. Nous laisserons les lecteurs la découvrir, cette préface,
oui.
Mais j'aimerais que nous lisions votre préface à deux voix, si vous le voulez bien. Votre préface à vous. Au temps qui passe et jamais ne revient sur ses pas, il faudrait disputer le souvenir de tous les instants. Bien que l'historien, le paléontologue, l'archéologue, l'archiviste, voire le romancier, tentent de ressusciter, de fixer, d'investiguer, dans et pour la préservation de la mémoire, leurs travaux restent imparfaits. À la grande bibliothèque du temps qui fuit, nous demeurons tous redevables du temps qui vient. D'autant plus que, à force d'éduquer, d'enseigner, d'essayer de comprendre où et qui sommes-nous dans ce grand tourbillon de l'univers, nous percevons en savoir de moins en moins. Imbu de certitude et bardé d'ignorance, nos esprits soudain éveillés s'épuisent en conjoncture, en idées plus ou moins inusables, en preuves scientifiques. Envoler les voiles de croyances dures comme fer en ces déités multiples ou uniques, en des pratiques mystiques, bénéfiques ou maléfiques, le temps est à la communication.
Jamais notre planète n'a autant communiqué en surface, en profondeur et par les airs. Nous sommes inéluctablement interconnectés. envoyant sans cesse et parfois sans nécessité des messages à nos semblables et à d'hypothétiques voisins dans l'univers, chacun se découvre tellement seul. Avec la multiplicité des appareils connectés à la portée de tous, des technologies de plus en plus puissantes et efficientes, la satisfaction de savoir devrait être comblée, comme il est loin le temps des paysans. Nullement satisfait de tout ce savoir, et pourtant gavé d'informations, chaque individu prend peu à peu conscience qu'il n'est guère plus avancé dans sa quête intérieure. Passé son étape d'apprentissage et de première découverte, écoulé sa jeunesse, parcouru son temps de travail, accompli son œuvre, il se retrouve au présent d'un futur qui désormais l'habite. À quoi aura servi tout ce temps d'une vie d'effort et de labeur, de partage, de peine et de joie? Une destinée ne se consume pas uniquement et inutilement à épuiser le viatique de départ. La trace de nos pas restera-t-elle imprimée dans la ouate diffuse de cet univers qui nous subjugue?
Oui, l'importance justement de garder, de préserver cette mémoire, de faire passer à nos enfants. D'ailleurs, on n'en parle pas assez de ce que nous avons vécu nous-mêmes à nos enfants.
Absolument. Hein? On a vraiment tout voulu faire disparaître, gommer ce que nous avons vécu, effectivement. De bien, de mal, de fort, de dur, de
voilà. Je sais pas si on a voulu, mais ça se fait. On est dans le présent, on avance.
Oui.
On
ne pense pas. Heureusement qu'il y a, comme dans mes livres précédents, la photographie qui de temps en temps nous remémore
absolument
des instants de cette vie. Fugace et pourtant si
et qui ont tellement changé. En fait, voilà, c'est ça, exactement. C'est le changement.
Oui. Ouais.
Alors, dans un premier temps, nous sommes à Campistrou, dans le Bigorre, au pied des Pyrénées. Alors, il y a un petit rappel historique dans l'Antiquité. C'était un carrefour important. On reviendra d'ailleurs. On reviendra à votre village d'origine de la famille, parce que Campistrou. Si j'ai bien compris, c'est le lieu de la promise de Jean, ce personnage que nous allons suivre tout au cours de votre ouvrage. Alors, dans l'Antiquité, c'était déjà un carrefour important?
Oui, on a des traces du néolithique, puisque c'était un carrefour important où, sur ces landes de nos villages du plateau de l'Anneusan, on a encore trouvé beaucoup de traces de ce passé avec les tumuli. C'était donc vraiment un lieu qui était très fréquenté. C'est un lieu qui, dans le passé, a vu arriver le monde paysan. Hein.
Oui. Voilà. Oui. Oui. Et d'ailleurs, effectivement, Saint-Bertrand de Comminges, il y a beaucoup de ruines romaines là.
Oui.
Et c'était pas très loin. C'était sur le chemin.
Oui. Voilà. C'était sur le chemin.
Voilà.
Les populations arrivées de la Méditerranée. L'agriculture est arrivée comme ça, sur notre région pyrénéenne, pré-pyrénéenne. Cette progression s'est faite depuis la Méditerranée jusque vers le Pays Basque.
On peut dire grâce aux Romains.
Oui, aussi grâce aux Romains. Et ça s'est fait également du côté sud des Pyrénées, mais également du côté nord des Pyrénées. Aussi bien côté espagnol, si on peut dire, et du côté français.
D'accord. Alors, au Moyen-Âge, déjà, c'était une population qui vivait d'élevage, si j'ai bien compris.
Hein. Beaucoup d'élevage.
Beaucoup d'élevage.
Bon, les fermes étaient en autosubsistance, en autoconsommation. D'élevage, puisque est quand même à près de 600 mètres d'altitude et la culture est déjà plus difficile que 200 mètres
évidemment,
plus bas.
Évidemment. Ouais. Des mules et des ânes.
Oui. Le village était spécialisé dans l'élevage de la mule.
Des animaux de bas, finalement.
Oui, des animaux de bas qui étaient donc utilisés dans toutes les fermes à l'époque, mais également beaucoup par les Espagnols qui venaient les acheter lors des foires de l'Anneusan et de Castelnau-Magnouec. Ouais. Donc chaque ferme du village de Campistrou produisait des mules.
Oui. D'accord. Alors, on comprend bien en vous lisant que déjà dans le passé, les fermes comme plus récemment, les fermes vivaient en autarcie, une forme d'autarcie.
En autarcie totale, hein, ouais. Oui. Il y avait très peu d'ingrédients qui venaient de l'extérieur.
Le sel ?
Voilà, on allait au marché pour acheter le sel, éventuellement l'huile, et autrement, tout était produit sur place. La farine était moulue au moulin, etc. Donc, le pain était cuit à la maison. Il n'y avait pas de four banal, four commun. Oui. Chaque maison avait son four. Donc, tout était produit sur place, oui, effectivement. Le tissage également, hein. Chaque maison avait des tisserands.
Oui, la fileuse.
La fileuse, aussi. Oui, mais le tisserand aussi. C'était, il n'y a pas si longtemps, quelques vieux métiers à tisser qui ont disparu, mangés par les vers, évidemment. Voilà, c'est dommage.
Oui. Et alors, on voit aussi qu'il y a une évolution, parce que, par exemple, ce village s'enrichit, prend une certaine importance. À un moment donné, vous notez qu'au XVIIIe siècle, il y a deux notaires royaux, il y a un médecin, un jeune avocat, un chirurgien. C'est assez étonnant, quand même.
Oui.
Et vous parlez également, donc, de cette importance, et vous parlez aussi d'une présence religieuse dynamique, on peut le dire.
Oui. Oui. Le village de Cambisrous, c'était un archiprêtré. Il y avait donc un archiprêtre et il y avait au moins un des servants qui l'accompagnait.
Oui.
Et donc c'était quand même un petit pôle religieux déjà à cette époque-là. Oui. Oui.
Alors évidemment, le changement, il y a eu le chemin de fer. Le chemin de fer, c'était un bien et pas forcément.
C'est pas forcément la meilleure chose qui soit arrivée, non. Bon, la commune n'est pas directement desservie par le chemin de fer. Il faut aller jusqu'à Lannemezan, donc la gare se trouve à une dizaine de kilomètres. Mais bon, le chemin de fer aurait pu passer à côté de la commune, même plus loin. Ça n'aurait pas changé grand-chose sur l'activité du village.
C'est... Mais la population, quand même, il n'y a pas eu un départ
Si, il y a eu une émigration. Il y a d'abord eu une migration rurale. Bon, dans un premier temps, dans le 19e siècle, les gens ont migré vers les villes plus importantes, Tarbes, Toulouse, Bordeaux, Paris, évidemment. Mmh. Et puis, à partir de 1850, il y a eu de l'émigration. Alors, les gens ont émigré surtout sur l'Amérique, les Amériques, puisqu'on disait qu'on émigrait dans les Amériques, en Amérique du Sud.
Est-ce que c'est la pauvreté qui les poussait à partir comme ça, comme dans les Barcelonnettes,
au fond des choses, c'est la pauvreté. C'est la surpopulation, parce qu'il y a eu une multiplicité de naissances dans les fermes, et il y avait trop de monde dans les maisons, et donc les jeunes ont émigré, oui.
Alors, parlons de Jean. En fait, c'était Jean Noël.
Oui, Noël Jean, même au début,
ah bon,
qui est devenu Jean Noël,
oui.
Parce que, comme vous l'avez peut-être vu dans l'ouvrage, il est né le 26 décembre, donc il a porté le nom de Noël Jean, et puis Jean Noël progressivement, et finalement Jean tout court.
D'accord. Et le récit que vous en faites, c'est un enfant qui est né sans père,
voilà.
On peut dire, ce qui arrivait à l'époque, on l'a vu
assez
même dans des films, oui, la jeune fille est violée, voilà. La honte de la famille, bon.
Toujours pareil,
oui.
Une histoire que l'on connaît bien, qui est rémanente, jusqu'à l'apparition des moyens de préservation, voilà. Donc la jeune fille devient un peu la honte de la famille. Elle va accoucher à Tarbes, c'est pour ça que Jean
Noël... le père l'éloigne.
Oui,
En fait, on est outré, et en même temps, c'était une autre époque.
Oui, c'était une autre époque.
Enfin, peut-être que tous les pères ne réagissaient pas comme ça, parce que cette pauvre jeune femme... Oui.
L'esprit familial, il fallait protéger les filles, mais...
L'honneur
de la maison, surtout.
Donc, elle est chassée par son père. Mais alors, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'elle a été ensuite acceptée par son père.
Oui.
Et je me suis dit, parbleu, Oui. Évidemment, le père était tout seul, il avait besoin de quelqu'un pour lui faire la cuisine.
Évidemment.
Voilà. J'avais raison.
Oui, un peu. Son épouse était morte, et donc il avait besoin de quelqu'un pour effectivement assurer l'intendance à la maison.
Et voilà.
Donc il a réaccepté sa fille. Qui est revenu avec son enfant, et Jean-Noël, voilà. Donc.
Et alors, nous sommes à Bazourdan. Par rapport à Campistrou, se trouve plus haut ou au même niveau?
Bazourdan est un petit village du Magnouac. Ouais. C'est un village qui est un peu comme une presqu'île dans le département de la Haute-Garonne, et au bord de la Gesse.
Oui.
Et c'est un village qui est situé à une vingtaine de kilomètres de Campistrou, au nord de Campistrou. Voilà.
D'accord.
Oui.
Alors, ce que vous dites, et on peut l'observer dans la plupart des villages des Pyrénées, je dirais peut-être du sud-ouest, quand on voit les monuments aux morts, oui, on voit que ces villages ont payé un lourd tribut à la guerre de 14-18.
Bien sûr, la guerre de 14-18, le monde français, enfin la population française,
oui,
était beaucoup rurale encore, hein, mm, et le lourd tribut a été payé par les paysans qui sont, oui, partis de leurs fermes, et ils n'avaient pour la plupart jamais voyagé à plus de 40 km chez eux. Ils sont partis, ils étaient en pleine récolte des fourrages, et mm, on les a embrigadés et montés au front. La veille, ils étaient en train de faire le foin. Le surlendemain, ils étaient chair à canon sur le front, ouais, face, ouais, aux Allemands.
Avec des pantalons rouges au début, voilà, en particulier. Et là, il y a 15... Alors, dans ce village donc, de Bazourdan, il y a eu 15 hommes jeunes,
oui,
qui ont été tués. C'est énorme dans un village.
C'est énorme, mais ouais, c'est la proportion de tous les villages ruraux en France.
Oui.
Hein,
ouais,
plus,
ouais,
ou moins...
Mais même, vous savez, à Toulouse, moi, mes deux grands-pères ont été tués à la guerre de 14-18. Ils étaient, eux, artisans.
Oui.
Oui.
Ah non, non, il y a eu une saignée de la population, oui, qui n'a pas...
Bon, qui n'a pas enrichi du tout le pays, à tout point de vue.
À tout point de vue.
Bon, ça a été, oui, douloureux. Et les conséquences, on n'en parle pas, mais des conséquences sur la famille même. Oui.
On sélectionnait les gens pour aller à l'armée. Mmh. On passait un conseil de révision. Et ceux qui n'étaient pas valides, etc., on les gardait,
oui,
dans, et les,
oui, on dans envoyait les plus forts, les plus costauds.
Les plus forts, les plus costauds, oui, et parmi eux, les plus intelligents.
Oui,
donc,
oui,
on a décimé, puisqu'on, oui, a bien des poètes, etc., qui
bien
sont
sûr,
morts à
ben
la,
oui,
guerre de 14-18,
oui, oui,
des cyclistes de premier
tout,
ordre, etc.
Tout à fait. Ouais.
Voilà, des médecins. Mmh. Et bon, mmh, on a dépeuplé totalement.
Oui, oui, oui. Alors, donc, Jean-Noël ou Noël-Jean a eu une enfance rurale, évidemment assez austère, disons, sinon pauvre, besogneuse.
Oui, parce qu'il a été placé...
Mais il a quand même passé le certificat d'études, ce qui n'était pas rien.
Il est arrivé au certificat d'études. Alors, je ne sais pas s'il l'avait vraiment.
Ah,
il,
oui,
est arrivé, ouais, malgré tout au certificat d'études.
Oh, oui.
Mais il était placé déjà dans la,
oui,
ferme d'à côté.
Alors, il était un baillet, justement.
Il était baillet, oui, effectivement. Oui. Il était baillet. Et dans cette ferme, il y avait d'ailleurs un autre baillet qui venait des Baronnies, de la région des Baronnies. Et Jean a appris donc son métier de paysan dans cette ferme Titoun,
oui,
où il est resté jusqu'à ses 30 ans.
Hein. Oui. Alors, nous allons faire une pause musicale.
Oui.
Vous nous proposez quoi?
Eh bien, je vais vous proposer un titre de mon ami Hugo Frey.
Oui.
Ce sera « Dès que le printemps revient ».
Voilà, nous l'écoutons.
Voilà.
Les filles sont jolies dès que le printemps est là.
Dès que le printemps est là.
Mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va.
Dès que le printemps s'en va.
Là-bas dans la prairie, j'attends.
toujours, mais en vain, une fille en Normandie. Dès que le printemps revient,
dès que le printemps revient,
je repense à ses yeux. Dès que le printemps est là,
dès que le printemps est là,
je revois nos adieux. Dès que le printemps s'en va,
dès que le printemps s'en va,
et son image rôde au détour de mon chemin quand les soirées se font chaudes. Dès que le printemps revient,
dès que le printemps revient,
non, le temps n'y fait rien. Non, le temps n'y peut rien. Je crois la retrouver dès que le printemps est là. Je sais se dire rêver dès que le printemps s'en va,
dès que le printemps s'en va.
Après bien des hivers, pourtant mon cœur s'en souvient comme si c'était hier. Dès que le printemps revient,
dès que le printemps revient,
non. Guérir dès que le printemps s'en va,
dès que le printemps s'en va.
Mais je sens la brûlure d'une douleur qui m'étreint comme une ancienne blessure. Dès que le printemps revient, dès que le printemps revient,
dès que le printemps revient,
dès que le printemps revient.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Jean-Paul Abadie qui est venu nous parler de la vie dans les Pyrénées. C'est le Comminges.
Non, c'est la Bigorre.
Ah, c'est
la
Bigorre. Ah, vous dites la Bigorre, vous ?
Oui, oui, oui.
Ah, moi, je croyais qu'on disait le Bigorre.
Non,
vous voyez
la Bigorre.
Ah, oui.
En fait, la région dont je parle, Bas-Ordan, Lannesan, Campistrous, Ouidès,
oui,
est à la limite,
oui,
du Comminges et de la Bigorre.
D'accord.
Nous n'avons jamais vraiment fait partie de la Bigorre. Nous, c'est pour vous dire, nous faisions même partie du Nébouzan. Une autre petite province.
C'est subtil, hein ?
Oui, c'est subtil, oui. On est au carrefour de toutes ces petites provinces.
Oui.
Bon, mais disons que nous sommes de la Bigorre.
Alors, évidemment, on parle du travail de Jean en tant que baillé, donc travaillant dans une ferme où il a le maître. Il y avait le maître.
Il y avait son maître, oui.
Son maître, oui. Oui.
Monsieur Durand.
Et on voit quand même, vous avez parlé des fêtes, des travaux d'abord, des travaux,
oui,
durs, nombreux. Du labeur, de l'entraide également. Vous parlez souvent de l'entraide, vraiment,
oui,
hein, de ferme à ferme,
oui, oui,
entre eux également.
Oui.
Et vous dites une chose à un moment donné, est difficile de sortir de cette condition, quoi qu'on fasse.
Eh oui, parce que déjà, les moyens...
L'ascenseur social n'existait pas vraiment, là.
Non, non, non. Il y avait une emprise du maître sur la maison,
oui,
sur sa femme, sur les employés, sur les baillets, effectivement. Et très peu de moyens de communication, autres que la rencontre des voisins. Il n'y avait pas de radio, enfin...
Oui, 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 oui.
Elle,
oui,
est arrivée assez tard,
oui,
entre les deux guerres, disons.
Oui, qui a apporté beaucoup d'informations,
qui
évidemment.
Qui a apporté beaucoup d'informations. Mais jusque-là, c'était
en, oui,
vivant
fermé, en lieu
en
clos.
En vase clos, oui, oui, bien sûr. Oui,
oui.
Oui. Mais l'information circulait, puisque les gens se rencontraient beaucoup. Il y avait effectivement toute une vie communautaire dans l'information. La bonne et la mauvaise circulaient.
Alors oui, au lavoir pour les femmes.
Exactement.
Et pour les hommes.
Et chez le bouilleur de cru ou chez le forgeron.
Hommes. Voilà. Ah oui, la place du forgeron. Moi, j'ai appris ça, que c'était la place très importante. C'était le métier noble. Et évidemment, parce qu'avec tout ce bétail, tous ces bêtes de somme,
bêtes de trait qu'il fallait ferrer.
Il fallait ferrer.
Et tout le monde se rencontrait pour aller faire ferrer ses vaches.
Ferrer, et puis même vous dites qu'il réparait tous les objets,
Le forgeron avait une place importante. C'était lui, le maître du feu, qui transformait le métal en outil, en instrument.
Donc c'était rien. Alors, ce qui me frappe aussi en lisant votre ouvrage, c'est que finalement tout est gardé, rien n'est jeté, c'est réutilisé. Vous savez, maintenant on parle de recyclage, ça revient. On en parlera de ce qui revient.
Oui.
Mais à l'époque, c'était ça.
Ah, c'était pas la société de consommation. On utilisait tout, on faisait feu de tout bois. Hein, c'est le cas de le dire, et de tout faire également.
Oui.
La possession du fer était une richesse.
Hein. Oui, tout à fait, tout se garder. Tâches immuables, programmées, alors auprès des bêtes, au champ, le travail du bois, puis à nouveau les bêtes. C'était.
Alors, le rythme des
saisons. Est-ce qu'il y avait une formation pour ça? Pas du
tout. Non, on apprenait sur le tas, comme on l'on dit vulgairement, mais on apprenait son métier. Jean a appris son métier de paysan dans la ferme où il a été placé. Hein. Et il a appris petit à petit.
Oui.
Et on lui confiait des tâches de plus en plus importantes
en fonction de son âge et de son savoir-faire.
Oui, de son acquis, oui.
Alors évidemment, il y a les preuves, vous parlez du tu-cochon.
Oui.
Alors là aussi, c'est tout un savoir-faire. Ce sont les hommes qui s'occupent de ça, dans un premier temps. On parlera du travail des femmes.
C'est important, le travail des femmes.
Oui, important.
C'est le travail de conservation de la viande.
Oui.
C'est la vie pour un an.
Oui,
c'est l'emmagasinement de la nourriture pour un an.
Oui.
Donc, travail important des femmes.
Oui, puis elles s'occupaient quand même de tout ce qui était poulailler aussi, je pense.
Absolument. Bon, toute la volaille.
Oui, le potager, probablement.
Aussi.
Oui.
Au jardin, la femme, et dans les champs, l'homme.
Voilà. Mais parfois, femme, elle allait dans le champ aussi pour aider.
Exactement.
Hein. Oui.
Mais la femme était partout.
Oui, c'est ça.
Ah oui. De la cuisine au semis, aux récoltes, la femme était partout.
Et alors, moi j'ai remarqué ça dans la vallée de la Barousse, la grand-mère restant au coin du feu pour surveiller la soupe.
Eh oui, voilà. Ouais. Chacun avait son rôle.
Ou gardant le bébé.
Il n'y avait pas de maison de retraite, mais tout le monde vivait dans la même maison. Mmh. Effectivement, le conflit des générations devait...
Ah bon, il n'y avait pas Orpea? Tant mieux. Alors voilà. Alors l'hiver, évidemment, il y avait les soins de vigne parce que chacun avait son petit vignoble.
Mais oui.
Toujours le tarsi.
Comme on vivait en autoconsommation, on avait donc les animaux, on avait les cultures, on avait le jardin et on avait les vignes également.
Mais peut-être ça donnait une piquette, non peut-être?
Oui, parce que quand on est à 500-600 mètres, on n'a quand même pas du vin de table de première catégorie. Et il faut quand même faire une différence justement entre Bazordan et Campistrous. Campistrous est à 600 mètres, Bazordan est à 400 mètres.
C'est
et
déjà 400 mètres, ça joue.
Et la configuration du terrain de Bazordan et de coteaux se prête à la culture de la vigne.
Oui.
Si bien que Bazordan était une commune où on cultivait énormément de vignes, et il y avait un tiers de la commune occupée par le vignoble. Et ce vin était vendu au grossiste de Boulogne-sur-Gesse qui venait le vendre ici à Toulouse. Hein.
D'accord.
Faut pas oublier.
Oui. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est que... Alors, il y avait également comme tâche, l'hiver, j'ai l'impression, l'entretien des petits ruisseaux.
Tout était important.
Et ça, vous disiez que tout le monde, il mettait la main à la pâte.
Bien sûr.
Et alors, justement, vous parlez de ce paysage... Que les jeunes n'ont pas connu parce qu'il y a eu ce néfaste remembrement, néfaste.
Oui.
peut-être pas pour les paysans quand on arrivait à rassembler un peu leurs terres.
Oui.
Mais qu'est-ce que c'était comme paysage donc ?
C'était un paysage de bocage.
Oui.
On parle du bocage de Normandie ou de Bretagne, mais la France était un paysage de bocage,
oui,
avec des haies, avec des fossés, avec des arbres, avec des parcelles bien délimitées.
Oui. Les haies permettaient un travail plus efficace, non ?
Oui, les haies protégeaient les cultures.
Les animaux.
Et également les animaux protéger également la dispersion des animaux lorsque l'on allait garder le bétail. La haie était une barrière naturelle. Lorsqu'on a coupé les haies, on les a coupées pourquoi ? Parce que est arrivé sur le marché, un appareil qui s'appelle l'électrificateur, la clôture électrique, qui a permis de contraindre les animaux sur des parcelles. Mais jusque-là, ils étaient contraints par les haies.
D'accord. Voilà. Et puis, il y avait des bergers.
Et puis, il y avait des bergers.
Dès qu'il y a eu les...
Et des bergères.
Et oui, oui, oui. Alors...
C'est une autre histoire.
Oui, c'est une autre histoire. Alors, ce remembrement, oui, assez destructif.
Oui.
Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de respect dans le travail de chacun, qu'il y avait cette entraide dont j'ai parlé.
Une entraide obligatoire.
Bien sûr.
Un seul homme ne pouvait pas réaliser, par exemple, une moisson tout seul. C'est un travail énorme. Il fallait une union de personnes pour réaliser la moisson et le dépiquage. Oui,
et derrière. Justement, parlons-en. Mais
oui.
Vous me parlez justement de ce travail qui est dur, manuel.
Oui.
Après, ça a changé, évidemment. Mais manuel, avec la chaleur, la poussière, aucune protection.
Tout était manuel.
Oui.
Il y avait très peu de mécanisation et pas du tout de motorisation. La mécanisation était uniquement lorsque sont arrivées les faucheuses pour la fenaison. Les moissonneuses, batteuses n'existaient pas. C'était des appareils dérivés de la faucheuse à foin. Et le dépiquage se faisait avec matériel, donc effectivement, là, mécanique, mais entraîné par des machines à vapeur.
Oui. Alors, vous parlez d'ailleurs de ce danger de ces engins mécaniques qui sont apparus.
Tout à fait.
Très,
très dangereux.
Très dangereux.
Oui.
Alors, je vois quand même que Jean-Noël ou Jean tout court, maintenant on peut l'appeler Jean de ce genre.
Jean, le dernier paysan.
Pour quand même arrondir ses fins de mois, avait un double métier. Et ça, nous l'avons vu dans les Pyrénées, ça a perduré souvent. Et en particulier le travail de maçon.
Oui. Jean, lorsqu'il était chez son premier maître, donc chez son maître comme apprenti paysan, à un moment donné est arrivée la mécanisation et la motorisation. Les tracteurs sont arrivés dans les années 50-60. Et le maître de Jean lui a dit, mais si tu pouvais te trouver un autre emploi, bientôt je n'aurais plus l'utilité de t'employer à plein temps. Donc si tu pouvais trouver un autre emploi. Ce qui fait que Jean s'est embauché comme ouvrier maçon dans une petite entreprise d'un petit village à côté, du petit village d'Arnay.
Oui.
Voilà. Et donc il a eu cette double activité, tout d'abord à Bazerdan.
Et il a même pu s'acheter un vélo.
Voilà, il a pu s'acheter un vélo. Et lorsque son patron a déménagé et est venu se marier dans le petit village à côté de chez moi, à Ouidès, Jean l'a suivi. Et Jean était en âge de se marier. Et c'est là qu'il a connu une fille de mon village, Marie.
Et c'est comme ça qu'il est parti s'installer à Cambistrousse.
Voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé à Cambistrousse. Et là, brutalement, il est devenu copropriétaire. De tout.
Mais qui ne pouvait même pas. Oui, parce qu'elle avait un petit domaine.
Oui, elle avait 5 hectares et une toute petite ferme. Et Jean n'aurait jamais pensé sûrement pouvoir
avoir cette chance.
Avoir la chance d'être propriétaire de quoi que ce soit. Et surtout, il est devenu propriétaire des vaches gasconnes des Pyrénées. Et ça a été tout le bonheur de sa vie. Jean n'a vécu en fait que pour ces vaches gasconnes qu'il a choyées jusqu'à leur dernier jour.
Hein. Oui, et on fait ce métier. Dans tous les cas, visiblement, les gens qui travaillent dans ces lieux aiment leur travail, mais quand on est propriétaire, c'est encore...
Oui, il avait son bâton de maréchal. Être parti de rien du tout à Bazornan et venir acquérir une petite propriété, même si elle n'est que de 5 hectares à Campisrousse, et d'avoir son petit troupeau de vaches, c'était le bonheur total pour Jean. Voilà.
Alors, vous notez aussi, vous dites que l'instruction est devenue, à un moment donné, après la Seconde Guerre mondiale, effectivement obligatoire. Pas pour les filles, mais pour les filles, vous avez parlé de quelque chose qui m'a intéressé, la Jacques. Parce que figurez-vous que je pense que c'était une personne qui venait du Lot qui m'a parlé justement de l'importance de la Jacques pour l'évolution des femmes qui sont devenues très dynamiques. Et moi, ce qui m'a frappé dans les Pyrénées, c'est que souvent ce sont les femmes qui tiennent les comptes, par exemple.
Mais bien sûr.
C'est le nerf de la guerre.
C'est pas le patriarcat. Chez nous, en Bigorre, ça a été beaucoup le matriarcat.
Ah oui.
La Jacques, alors il faut dire ce que c'est oui. La jeunesse agricole chrétienne française. Mmh. Voilà. Effectivement, par la Jacques, les filles de nos fermes bigourdanes et autres, occitanes, se sont aperçus qu'elles pouvaient mener un rôle aussi important que les hommes dans les petites fermes, dans les exploitations. Et ça a été vraiment un moyen de connaissance, de rencontre et de confrontation d'idées, et qui a beaucoup fait évoluer l'agriculture et le monde rural.
Oui. Ouais. Justement, l'agriculture, le monde rural, les problèmes. Et vous nous parlez de quelque chose qui a impacté, à une époque, la culture des vignes en particulier, entre autres. Oui. C'est Péchiné qui était pas très loin de ce village.
Oui, sur le plateau de l'Admezan, effectivement, il y a eu, à une certaine période, dans les années 60 jusqu'aux années 90, des problèmes de pollution qui étaient induits par... alors, la pollution sur l'eau était induite par les usines SPA devenues Atochem, et la pollution de l'air était induite par la propagation de vapeurs de fluor sur la végétation et les animaux aux alentours de l'usine de l'Admezan. Effectivement, ça a provoqué pas mal de problèmes au niveau rural.
Mais ça a été réglé.
Ça a été réglé, puisque il a été mis en place tout un système de...
Avec
de
des personnes
contrôle,
compétentes.
D'expertise et d'indemnisation des dégâts.
Oui,
c'était la meilleure chose qui pouvait arriver, de façon à ce que tout le monde vive en entente cordiale.
Oui, bien sûr.
On n'allait pas vivre en permanence à coups tirés.
Alors, en fait, qu'est-ce qui a changé ? C'est vrai qu'il y a motorisation de tous les engins, motorisation des moyens de transport, hein, oui. Donc beaucoup moins de fatigue quand même, plus d'hygiène, on peut le dire,
plus
ça aussi.
Oui.
Hein.
Oui.
Il n'y a plus de bergers.
Il n'y a plus de bergers, il y a des clôtures électriques.
Il y a clôtures, oui, et les patous dans les Pyrénées, mais bon.
Oui.
La fin d'une époque, alors peut-être pas. Il y a des initiatives nouvelles qui voient le jour.
Oui, alors il faut comprendre que le monde rural a été sectionné par d'abord la présence des paysans à l'origine, qui sont devenus, du fait de la motorisation, des agriculteurs, et du fait de la nécessité de nourrir cette France d'après Seconde Guerre mondiale, les agriculteurs sont devenus des exploitants agricoles un peu dépassés par la motorisation qu'ils avaient à leur possession, et qui, à ce moment-là, ont complètement modifié le paysage rural en arrachant les haies, etc., et en bouchant les fossés. Bon, voilà. C'est le passage de la vie rurale. Et puis maintenant, en 2022, nous assistons depuis quelques années, 2 ou 3 ou 4 ans, à un retour arrière, oui. Si l'on peut dire.
Et des jeunes qui reviennent s'installer.
Oui, ce sont des jeunes, et souvent des jeunes qui ont déjà bourlingué dans le monde, et beaucoup de jeunes filles qui ont appris ailleurs, qui ont fait des études, hein, et qui ont eu des emplois dans divers domaines, pas seulement agricole, et qui reviennent dans le monde agricole avec des idées nouvelles, et qui mettent en place dans les villages des productions dont on n'aurait pas tenu, dont on n'aurait pas fait cas il y a seulement 5 ou 6 ans. Et c'est remarquable parce que ce sont des filles qui reprennent les exploitations de leurs grands-parents.
Et qui sont vaillantes.
De leurs parents, et qui se donnent à la tâche et qui réussissent.
Et comme on préconise maintenant les circuits court.
Exactement. Ça... Elle bénéficie de... Enfin, ces jeunes qui reviennent à la terre bénéficient de ces circuits courts et puis peut-être des erreurs que nous avons faites pendant 20 ans la suite des 30 glorieuses.
Où on n'a pas fait attention. Alors, il y a plusieurs photos de gens qui a existé, photos. Et là, ce qui est émouvant, c'est qu'il a voulu être photographié avec ses deux dernières vaches. Et quand un éleveur se sépare de ses deux dernières vaches, j'ai connu une éleveuse dans ce cas, c'est quand même triste pour eux. Et alors, voilà ce qui se termine. Là, j'ai vu la gloire de Jean face aux Pyrénées. Altier, tenant sa guillade fixe devant ces deux gasconnes jointes, je sentais bien que c'était là pour Jean les derniers gestes de toute une vie de labeur et de passion pour ce métier de paysan. Plus qu'un métier, c'était sa vie d'homme libre, cette vie à laquelle il avait donné du sens, cette vie entière, simple, durant laquelle il avait lutté honnêtement contre l'infortune et le mauvais sort pour se libérer de la tutelle et de la dépendance. Une dignité d'homme capable de subvenir à ses besoins primaires en sachant respecter son environnement et sublimer ce que la nature offrait. Sans études philosophiques, sans cours magistraux universitaires, un homme qui avait tout compris des plaisirs simples et paisibles de la vie. Voilà une belle fin pour ce bel ouvrage. Un grand merci, merci Jean-Paul Abadie.
Monique, c'est drôle, lorsque vous le lisez, ça m'émeut.
Mais moi, je suis ému en le lisant.
C'est étonnant.
Oui.
Même moi.
Oui. Jean-Paul Abadie, un grand merci pour votre présence ici et puis pour ce témoignage. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Jean, le dernier paysan, face aux Pyrénées, paru aux éditions Lafond de Ménat.
Je vous remercie, Monique. Merci beaucoup de cette interview. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.